Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Maxime Thuriot dans le cadre d'une série d'émissions consacrée aux anciens élèves du lycée Raoul Follereau. Bonjour Maxime Thuriot.
Bonjour, bonjour à tous.
Pour commencer cette émission, j'aimerais que nous revenions sur votre parcours au lycée. Quel cursus avez-vous suivi ?
Alors au lycée, j'ai été en seconde générale, je suis arrivé au lycée Raoul Follereau et j'ai ensuite pris le programme économique et social en première et donc j'ai suivi ça en terminale jusqu'à la fin du lycée, avec une option en terminale qui était sciences politiques.
Et quel genre d'élève étiez-vous lorsque vous étiez au lycée ?
J'étais curieux, j'essayais de regarder un peu, d'essayer de suivre, et puis de faire de mon mieux. Et puis j'avais surtout des professeurs excellents et qui ont été d'une grande aide, et je les en remercie aujourd'hui. D'ailleurs, je me permets de les citer, mais entre autres M. Crescenzo, Mme Queneau, je pense aussi à M. Prodossimi, à Mme Vallée, je pense à énormément de professeurs, M. Carly aussi, je suis désolé, j'en oublie certains, mais je pense à eux et je tiens aussi à les remercier parce que dans le cadre d'un concours, et qui plus est ce concours, l'entourage est très important et le cocon, en tout cas que j'ai eu la chance d'avoir dans ce lycée Raoul Follereau, avec l'équipe pédagogique qu'il y a eu derrière, avec mes professeurs, ils ont joué un rôle déterminant, en tout cas dans mon parcours.
Après votre bac, vous avez réussi à intégrer l'Institut d'études politiques de Paris, dit Sciences Po Paris. Comment avez-vous vécu ce passage du lycée à Sciences Po Paris ?
Bien. J'étais très content de partir, en tout cas, pour découvrir cette ville, et découvrir aussi le monde un peu du supérieur, devenir étudiant. C'est quand même des années très sympas. On profite aussi, je vais dire des choses qui vont faire sourire et qui, c'était il y a longtemps, c'est difficile aujourd'hui d'aller au resto ou de boire un verre, mais en tout cas, profiter de la vie étudiant, c'est très sympa, c'est aussi le début de l'indépendance, donc c'est aussi le début de beaucoup de choses, mais je l'ai vécu. Après, c'est pas forcément évident d'arriver dans cette école. On peut parfois avoir des remarques particulières. Je me rappelle, je serai toujours marqué à vie par cette semaine d'intégration où on est classé par ordre alphabétique. Et je n'oublierai jamais, c'était dans le jardin à Sciences Po, discuter avec quelques personnes, dont quelques-uns sont devenus ensuite des amis de longue date, mais aussi des personnes que j'ai rencontrées pour la première fois, m'ont demandé d'où je venais. Je répondais que je venais de la Nièvre et de Nevers. Et on m'a répondu « Ah, mais ça doit te faire bizarre d'habiter dans une ville maintenant. » Alors voilà, c'est pas de généralité, mais en tout cas, il y a une atmosphère qui est particulière, qui est stimulante, qui est passionnante, mais on se rend compte aussi qu'il y a énormément de différences entre plein de gens. Et puis voilà, on n'est pas forcément... Il y a un passage entre le fait d'aller au lycée, de partir de Nevers, de partir de la Nièvre, et forcément d'habiter à Paris. Il y a un changement.
Et lorsque vous êtes entré à Sciences Po Paris, vous aviez déjà un projet en tête ou est-ce qu'il s'est dessiné au fil des années ?
Il s'est dessiné au fil des années. Une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'aller dans cette école, c'est que je ne savais pas. Je n'étais pas sûr de savoir ce dans quoi je voulais travailler. Donc c'est aussi une raison, c'est parce que cette école, je pense, et là je me tourne vers vous, et aussi vers tous ceux de l'atelier, mais en tout cas tous ceux qui veulent préparer le concours de Sciences Po, il y en a, pour la plupart, ne sont pas sûrs du métier ou du domaine dans lequel ils veulent travailler ensuite. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idée, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas réfléchi à deux ou trois domaines. Mais en tout cas, le choix, on ne le fait pas encore. Et c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie quand on a 17, 18 ans, qu'on sort du lycée. C'est pas évident, et d'autant plus aujourd'hui, parce que la période est marquée par beaucoup d'incertitudes. Donc, cette école a au moins l'aspect positif de nous permettre d'aller découvrir un peu des matières, de toucher un petit peu à tout, de voir ce que c'est que la sociologie, l'économie, l'histoire, le droit, découvrir un peu tout ça, d'avoir des initiations, et ensuite, pourquoi pas, de se spécialiser dans des domaines, quand on fait les écoles, que ce soit le journalisme, les affaires publiques, les affaires européennes, etc. Il y a plein d'aspects différents qui permettent, une fois qu'on a la chance d'être dans cette école, de dessiner un peu plus son parcours et de faire des choix.
Lors de la scolarité à Sciences Po, la troisième année est un moment important puisqu'il s'agit de l'année à l'étranger. Où est-ce que vous l'avez effectuée ?
Alors j'ai fait ma troisième année en Australie.
Et vous avez étudié quelque chose de particulier là-bas ou...
Alors je voulais aller étudier là-bas, sauf que je n'ai pas été, j'ai pas eu de vœux en fait affectés, et parce que je n'avais pas des résultats en anglais. En fait, pour passer cette troisième année dans un pays, il faut passer un examen qui s'appelle l'IELTS. Il faut avoir une note particulière dans cet examen. Et au vu des notes que j'ai eues à l'IELTS, j'ai pas été affecté dans mes choix qui étaient en Afrique du Sud, en Australie. Et au début, je m'étais simplement tourné vers la case échange universitaire en troisième année, alors que j'avais pas regardé l'autre côté qui est celui de faire des stages. Et ce côté de faire des stages, finalement, j'ai fini par le décider. Je me suis dit que j'avais très envie d'aller en Australie et que je déciderais d'essayer de trouver des stages, et c'est ce que j'ai fait.
Et que retenez-vous de vos années à Sciences Po Paris ?
Je retiens beaucoup de choses. J'essaie de retenir, je retiens des rencontres. Je retiens beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons, en fait. Beaucoup de leçons, que ce soit des leçons théoriques, mais aussi des leçons de vie. Parce qu'on n'apprend pas tout en classe, on apprend énormément de choses. Et là-dessus, le métier de professeur ou d'enseignant est un métier, je crois, magnifique. Mais à Sciences Po, on apprend beaucoup de choses en dehors des cours. Je me rappelle de cette phrase, quand on arrive pour la leçon inaugurale en première année, on nous dit souvent « Travaillez, travaillez, mais ne faites pas que travailler. » Et je trouve que dans cette phrase, il y a beaucoup d'informations. Et à côté des cours qu'on a à Sciences Po, en tout cas pour le collège universitaire pendant les deux premières années, on a du temps à côté. Et la scolarité, elle dépend aussi de la façon dont on comble ce temps. Ça permet de s'engager dans des associations, d'aller faire des rencontres, de profiter de la culture aussi, d'aller au théâtre, de faire d'autres choses, mais d'aller écouter des concerts, de faire des rencontres sportives, culturelles, ça permet de s'ouvrir, et ça aussi c'est quelque chose que je retiens dans le projet pédagogique un peu de cette école.
Depuis quelques mois, vous êtes collaborateur du sénateur de l'Isère Didier Rambaud. Comment avez-vous été amené à occuper ce poste ?
J'ai eu une opportunité de travailler en CDD, et ça m'a permis de croiser ce sénateur qui m'a ensuite proposé de travailler pour lui.
Et très concrètement, en quoi consiste votre fonction ?
Alors, je suis attaché parlementaire, on peut dire ça aussi collaborateur ou assistant. Les fonctions sont assez multiples, en fait. Je découvre que c'est un métier qui dépend aussi de son employeur, qui dépend aussi de la personne avec qui on travaille. Il y a des attachés qui sont à Paris, au Sénat ou à l'Assemblée, et il y a aussi des attachés qui sont en circonscription. Bon, le travail n'est pas le même, il y a plein de tâches diverses. Pour ma part, ce que je fais beaucoup, j'essaye beaucoup de faire des recherches juridiques, d'échanger, des rédactions de notes, des rédactions de discours, et un suivi du travail législatif au Parlement. Des lois, des projets de loi, ou des propositions de loi. Donc les tâches sont assez diverses, mais en tout cas elles sont aussi en fonction de l'actu politique. Il y a les questions au gouvernement à préparer, il y a pas mal de choses à préparer, et on est dans un contexte en plus d'élections régionales et départementales. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le travail de collaborateur parlementaire à Paris. Ça, c'est à part, je parle du contexte. Mais en tout cas, quand j'en parle avec d'autres personnes autour de moi, je me rends compte qu'il n'y a pas une façon d'être collaborateur. Il y a, je pense, plein de nuances pour être collaborateur parlementaire. Il y a plein d'aspects, il y a plein de façons de l'appréhender et de l'exercer.
Et en parallèle, vous êtes également président de l'association de la Nièvre aux Grandes Écoles. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette association que vous présidez ?
Alors cette association a été créée en juillet 2019. Elle agit pour l'égalité des chances et le développement de notre Nièvre, développement du territoire. On a créé ça à 5, on était 5 copains autour d'une table, et on avait envie de créer une association pour regrouper des étudiants du même territoire qui ont accédé à des filières sélectives et à l'issue de concours qui ne sont pas évidents. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait parfois un manque d'informations, de l'autocensure, et aussi des barrières financières. C'est contre toutes ces barrières qu'on veut agir. Alors aujourd'hui, on n'agit pas encore autant que je le souhaite pour les barrières financières, parce que pour ça, il faut mettre en place un système de bourse, mais nous faisons partie d'une fédération nationale qui s'appelle Des Territoires aux Grandes Écoles, et dans certains territoires de France, il y a des dispositifs de bourse qui permettent à des élèves d'avoir des études qui sont financées. On ne peut pas être passif quand on voit qu'il y a des gens qui veulent accéder à des filières, qui travaillent, qui sont des bosseurs, ou des bosseuses qui ont envie d'accéder à des filières et qui ne peuvent pas y accéder parce que les ressources financières ne permettent pas d'y aller. Ça, c'est pas normal. Sur Sciences Po, c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que cette école permet à, je crois, autour de 10 ou un petit peu plus, 10% d'élèves boursiers de prendre en charge leurs études. Et ces élèves boursiers ne payent pas, en tout cas, de frais d'inscription à l'année ou très peu.
Et si des auditeurs sont intéressés par l'association, comment peuvent-ils vous contacter ?
Alors, ils peuvent nous contacter sur le site internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Ils peuvent aussi nous contacter. On a sur notre site internet tout le panel des adhérents. On était 5 au début, je vous le disais. Aujourd'hui, on est presque 70 adhérents. Et on intervient dans les lycées pour déconstruire l'autocensure, pour donner des informations. On a lancé aussi un dispositif de tutorat avec les services de l'éducation nationale pour créer des binômes entre lycéens et adhérents de l'association, étudiants. Ce sont des étudiants et des jeunes diplômés. Donc ils sont vraiment au cœur de ça, et l'idée c'est de créer des liens, de créer de l'entraide, du tutorat, parce que j'y crois, parce qu'on pense que ça marche. Et là-dessus, on aimerait aussi à l'avenir créer des visites d'entreprise, créer du lien entre les acteurs du territoire et les élèves, les lycéens, et ceux qui sont étudiants et jeunes diplômés de ces écoles.
Merci beaucoup Maxime Curieux d'avoir répondu aux questions de Bac FM.
Avec grand plaisir.
C'est la fin de cette émission consacrée aux anciens élèves du lycée Raoul Follereau. Passez une agréable journée sur Bac FM 106.1.